des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Docteur Dominique Demichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Depuis le début de la pandémie, nos habitudes ont bien changé, parfois sans nous en rendre compte. Je pense à tout ce vocabulaire que nous avons adopté sans vraiment nous poser de questions. Confinement, reconfinement, déconfinement, des mots qui n'existaient pas avant, déconfinement et reconfinement. Mais aussi gestes barrières, présentiel, distanciel. Nous avons eu aussi le fameux distanciation sociale qui est devenu distanciation physique. Bref, le bouleversement le plus visible étant bien entendu le port obligatoire du masque. Alors peut-être, docteur Dominique Demichel, avant d'en venir au masque, parlons de ce vocabulaire et de ce langage qui nous façonne, mine de rien, de manière insidieuse et inconsciente.
À la fois, il nous façonne et à la fois, il témoigne de quelque chose qui nous échappe. Hein. Parce que comment les mots émergent, on ne sait pas trop
qui a inventé ce mot de confinement. Il existait avant, mais très peu utilisé.
Oui. Alors probablement, il y a des cabinets de conseil ou des cabinets de communication qui ont essayé de trouver des mots, qui réfléchissent. Voilà. Mais on sait bien que de temps en temps, il y a des mots qui sont lancés et qui ne fonctionnent pas et qui sont tout de suite abandonnés collectivement. Et puis il y en a d'autres où le collectif se l'approprie. Hein. Alors moi, je reviendrai bien sur l'exemple que vous donniez à propos de distanciation sociale.
On s'en souvient, c'était au début du confinement. Ça a duré quelques mois quand même. Hein,
Oui, tout à fait. Et moi qui aime bien écouter les mots, être attentif aux mots, avec pertinence, impertinence ou manque de talent, sûrement dans bon nombre de situations, moi j'avais été très surpris. Et en même temps, ma réflexion a changé, puisque au départ, on a dit distanciation sociale. Et que, à l'évidence, ce qu'il s'agissait de dire, c'était distanciation physique. Garder la distance, garder 1 mètre, puis 1,50 mètre, puis 2 mètres, enfin plutôt 2 mètres maintenant on dit, mais voilà, et en fait il s'agissait de quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'art d'être ensemble, avec tout cette espèce de sociabilité que Bourdieu a longtemps étudié, observé et travaillé. Et puis en fait, à partir du moment où on a pu comprendre en effet et saisir qu'il s'agissait avant tout d'une distanciation physique, on s'est aperçu que cette distanciation physique entraînait quelque chose qui était contenu dans le premier concept, mais qui n'était probablement absolument pas voulu, c'est que cette distanciation physique allait se transformer en une distanciation sociale. Hein, et que finalement, dans le fait qu'avec nos amis, avec nos proches, et raison de plus avec notre famille en dehors du noyau familial, le fait de ne pas pouvoir se faire la bise, serrer de la main, de se prendre dans les bras, eh bien, ça avait un effet qui n'était pas simplement du côté de « bon, on se garde un petit peu à distance ou on se cogne le coude ». Donc, on voit là comme s'il y avait une espèce d'intuition qui n'était pas dans l'intention, mais que finalement, l'effet à venir de cette distanciation physique, c'était vraiment une distanciation sociale. Et que ce confinement, finalement, qui avait pour objet de mettre les corps à distance, a mis les âmes, les psychismes, les cœurs à distance, et que ça, c'était quand même tout à fait problématique.
Et par rapport à ces mots, c'est presque des mots valises, qu'est-ce que ça dit de notre société maintenant, on l'utilise, donc geste barrière, alors qu'on pourrait dire simplement, je ne sais pas moi, s'inventer notre propre langage, même s'il est moins parfait. Nous ne sommes pas parfaits, je bafouille très souvent à cette même antenne. On pourrait simplement dire, tu t'approches pas de moi, ou non. Je me souviens qu'on avait parlé la semaine dernière de la mathématisation du monde, avec toutes ces statistiques qui remplissent nos vies, des statistiques d'un côté, des mathématiques d'un côté, et puis des mots concepts, mots valises qui sont un peu crus, qui sont inventés en tout cas de manière très artificielle de l'autre.
Ce que ça m'évoque en tout cas, moi, c'est que l'origine, comment je dirais, le fondement de la parole n'est pas la même. Vous, quand vous dites, dans votre exemple, je ne sais plus exactement les mots que vous avez employés, mais c'était « bon, on ne se rapproche pas trop, on se tient un petit peu à l'écart ».
On pourrait le dire de mille façons différentes.
Voilà, mille façons différentes. Mais là, ce que vous dites, c'est vous l'enracinez à partir de votre expérience personnelle et de la relation à l'autre.
Mais le langage, donc, c'est ça, le langage.
Oui, sauf que c'est incarné, ça. C'est incarné et que l'espace d'émergence, c'est votre expérience et la relation que vous avez à l'autre. Parce que vous allez toujours dire quelque chose qui est adapté. Si c'est par rapport à votre grand-mère, vous n'allez pas utiliser le même vocabulaire que si c'est votre collègue de travail ou si c'est le voisin d'en face. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur de nous-mêmes. Dans l'idée de geste barrière, non, c'est quelque chose qui descend. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut intérioriser, puisqu'il s'agit au fond d'un ordre. C'est-à-dire, il y a un sens interdit qui est imposé, et qu'on reprend ce mot-là comme s'il nous était radicalement étranger. Donc, vous voyez, il me semble que c'est pour ça que finalement, on a choisi ou on s'est réapproprié, sans se le réapproprier, ce mot-là, pour juste désigner une espèce d'interdit qui n'était pas un interdit à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, on ne va pas dire à un enfant qui sort des toilettes « n'oublie pas les gestes barrières », on va lui dire « va te laver les mains peut-être », ou on ne va pas lui dire « n'oublie pas les gestes barrières pour tes dents avant d'aller te coucher ».
Mais je suis sûr que maintenant, on risque de le dire.
Je ne suis pas sûr.
Ah, c'est pas évident. Hein.
Ou on va le dire avec humour, peut-être, ou on va le dire peut-être pour se moquer du mot. Vous voyez, pour se moquer du mot qui serait une sorte de quelque chose qui est descendant. C'est-à-dire, c'est la loi du collectif qui s'impose à moi-même. Tandis que quand je fais attention à ma grand-mère ou à mon voisin d'en face ou à mon collègue de travail, ça vient à l'intérieur de moi-même. Donc j'utilise des mots qui sont les miens.
Mais quand la loi du collectif entre jusqu'à dans notre propre langage, qui est le lieu de notre incarnation la plus véritable, comme vous le dites, bien que, et même peut-être même inconsciente, car vous êtes bien placé pour le savoir, qu'on ne maîtrise pas tout le temps ce qu'on veut dire, et que souvent les mots nous échappent. Est-ce que ce n'est pas justement le caractère d'une société finalement assez suiviste, une société qui reçoit sans trop réfléchir une espèce de... peut-être d'échec de la pensée quelque part, de la pensée en tout cas qui serait originale, qui serait personnelle.
Si je pars vraiment de mon expérience moi-même, je dirais, moi, quand j'utilise le mot « geste barrière », j'ai l'impression que je fais référence à quelque chose qui m'est extérieur et qui m'est radicalement extérieur. Hein. Moi, j'aime bien la proximité, j'aime bien prendre dans les bras, j'aime bien toucher, j'aime bien... Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, geste barrière, ça sera... c'est le sens interdit qui est posé devant la route ou à l'entrée de la rue, mais ça ne m'appartient pas. Vous voyez, donc, alors c'est peut-être mon côté sale gosse, mais je ne pense pas que je pourrais un jour, j'espère, intérioriser l'idée du geste barrière. Voilà, je dirais, comme parce que je suis médecin, avant de passer à table, avant de préparer la soupe, je vais me laver les mains. Voilà, mais c'est automatique, etc. Mais c'est intériorisé, ça vient de moi. J'ai pas besoin de faire référence à des gestes barrières. Alors, quand je sors de l'hôpital, je fais un peu plus attention, surtout qu'en ce moment, l'hôpital, la petite bête à picot, elle se promène pas mal. Voilà, mais ça, donc, j'oublie pas, là. Mais c'est la part professionnelle extérieure à moi-même. Donc, j'espère en tout cas que ce que vous convoquez comme étant, si je vous ai bien compris, une loi qui viendrait s'imposer et qui serait dramatiquement intériorisée sans qu'elle puisse être personnalisée, j'espère bien que ça ne va pas survenir. J'espère bien, voilà.
Moi aussi.
Et puis peut-être j'espère qu'un jour quand même, vous savez, il y a quand même cet exemple assez étonnant de l'Inde où on a arrêté tout confinement. Donc peut-être un jour on pourra se faire la bise comme ça, voilà.
Oui, peut-être que ce mot confinement restera dans le dictionnaire comme étant aussi une période de pandémie. Un autre élément, évidemment, qui est beaucoup plus visible, c'est le cas de le dire, c'est le masque. Et pourtant, le masque voudrait rendre invisibles les choses, mais là, pour le coup, il est visible. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce masque, qui, crée une véritable distance, pour le coup.
Je crois que ça, il y a quelque chose de terrible. D'abord parce que le masque, on le vit dans énormément de registres. D'abord, on le vit extrêmement concrètement. Concrètement, on l'a devant la figure, c'est gênant pour parler, on ne va pas parler de la buée sur les lunettes, on ne va pas parler du fait, par exemple, qu'on a découvert, pour bon nombre d'entre nous, il me semble, l'odeur de notre propre haleine, parce que, voilà, quand on garde le masque un petit peu longtemps, on s'aperçoit qu'il a une odeur, Et ben voilà, c'est une odeur qui nous est parfaitement inconnue parce que on ne la connaît pas. Voilà, peut-être nos proches ou nos conjoints la connaissent. Et puis voilà, de temps en temps, on reprend un peu un vieux masque parce qu'on n'a que ça sous la main. Il n'est pas parti à la poubelle. Et puis voilà, et on a une odeur. Tiens, ben voilà, ben, on découvre sa propre odeur. Donc il y a des choses qui sont extrêmement, extrêmement concrètes. Je dirais presque charnelles. Voilà, on voit plus rien parce qu'il y a de la buée. Et puis ça s'enlève pas comme ça. Et puis ça nous agace. Et puis bien évidemment, il y a tout le reste autour.
Le masque, c'est quoi au départ ?
Le masque, moi j'aime bien citer cette phrase de Lévi-Strauss qui dit « Le masque révèle plus qu'il ne dissimule ». Alors ça c'est intéressant parce que à quelle référence on peut faire allusion ? Classiquement, le masque, c'est ce qui masque, c'est ce qui cache. Mais il faut se rappeler que, par exemple, dans la tradition de la tragédie grecque, le masque était là pour incarner, c'est-à-dire il incarnait un personnage. C'est-à-dire celui qui avait un masque tragique, il portait un personnage tragique. Celui qui avait un masque de clown, il portait le personnage du clown. Donc il n'était pas là pour dissimuler, il était là au contraire pour affirmer, pour dire l'identité du personnage. Et qu'au fond, chacun... On connaît cette expression « allez, laissons tomber les masques hein, », au fond. C'est-à-dire « allez, derrière ton masque, il y a qui ? Qui es-tu derrière ton masque ?» Et au fond, ce masque était officiellement censé dissimuler, mais en même temps, dans les origines, il était là pour affirmer quelque chose. Donc, en même temps, on sait bien que quand Lévi-Strauss étudie dans les sociétés un peu éloignées, le masque, il parle essentiellement d'une iconographie sacrée des peuples africains, des peuples asiatiques, d'Océanie, et que là, alors, le masque n'est pas là pour cacher quelque chose, mais pour dire l'articulation, au fond, entre le sacré et le profane. Et les gens qui étaient porteurs des masques, hein, des simèses, par exemple, le masque venait ici témoigner de leur fonction profondément. Voilà, le chaman porte un masque, les sorciers africains ou en Asie, par exemple, il y a ce masque. Donc, on peut porter un masque vénérable, et celui, à ce moment-là, qui porte ce masque vénérable, incarne quelque chose, et au fond, sa propre identité profonde s'efface au profit du symbole qu'il porte. Dans le carnaval, c'est la même chose. Et à Venise, tout le monde porte un masque, mais ce masque, il vient témoigner d'une présence particulière, voilà, et surtout d'un état d'esprit particulier. Donc, au fond, il est un masque qui est là pour montrer et qui n'est pas là pour dissimuler.
Alors, la différence avec le carnaval, c'est que le masque, on le verrait plutôt sur les yeux, voilà. Sur le haut du visage, et puis là, c'est sur le bas du
voilà.
Visage.
Surtout que les yeux sont toujours incomplètement caché, puisque en fait, il y a quand même les orifices, il faut voir, sinon, là, du coup, on ne voit rien du tout et on se prend le lampadaire. Mais dans le fait qu'une partie du haut du visage soit cachée, dit bien qu'il y a quelque chose au fond de la plus grande expressivité du visage, à savoir les yeux et la bouche, qui sont tout à fait transparents. Alors, moi, j'aurais envie presque de parler de mon expérience personnelle, qui est que, en particulier pour les patients que je ne connais pas, c'est arrivé puisqu'on enregistre souvent le jeudi, et le jeudi matin, je suis à l'hôpital de Chartres, c'est encore arrivé ce matin, j'ai écouté l'histoire de quelqu'un une histoire un peu douloureuse, et au bout d'un certain temps, je lui ai dit, est-ce que, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord plutôt, enlevez votre masque. Et enlever votre masque, ça permettait, il me semble, deux choses. Pour elle, il me semble, pour cette personne-là, d'avoir une plus grande liberté de parole. Et deuxièmement, pour moi, de voir la globalité de son visage.
Oui, parce que, reprenons au début, comment vous ressentez le patient qui arrive avec son masque ? Vous l'écoutez, du coup, vous êtes plus concentré sur sa parole, peut-être ?
Oui, mais
Il y a beaucoup de choses qui passent, effectivement, par le visage.
Énormément de choses passent par le visage, par la posture. Voilà, les gens qui sont recroquevillés sur leur siège, les gens qui, au bout d'un certain temps, ça c'est pratiquement tout le temps, quand ils s'autorisent une parole et qui font confiance à celui qui les écoute, ou celui qui est en face d'eux, il y a quelque chose qui s'ouvre hein, dans le corps. Donc, parfois, ils enlèvent leur manteau. C'était typiquement ce matin, la personne avait son manteau comme ça, avec quelque chose qui était... Bon, il faut dire qu'il faisait froid hein, ce matin. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et au fond, dans le corps, quelque chose s'ouvre. Dans le visage, c'est la même chose. Donc, quand on n'a que les yeux, il manque la cohérence, la globalité du visage. Et pour moi, en tout cas, c'est extrêmement difficile d'évaluer. Et ce matin, c'était tout à fait spectaculaire. La personne a parlé peut-être pendant environ une demi-heure. Hein, c'est une première consultation, donc on a une heure de consultation. Je lui ai proposé d'enlever son masque. Et vraiment, après, j'avais une autre perception, une autre sensibilité, dont je ne sais d'ailleurs pas toujours quoi faire. Je ne sais pas si je saurais d'ailleurs énormément en parler, mais je la ressens. Point. Je sens le visage avec la bouche qui se lève ou la bouche qui tombe ou la bouche qui voilà. Donc il y a des tas de choses qui se passent. Voilà. Donc cette exigence sanitaire impose en effet cette distanciation physique, je crois que ça blesse quelque chose de la corporéité et de la globalité du corps de l'autre, et en particulier cette corporéité pathique, c'est-à-dire pathique de pathos, c'est-à-dire de cette souffrance qui se dit aussi dans le corps.
Le masque, le visage, pardon, vous voyez, c'est un lapsus, le visage est évidemment porteur d'une identité également. Il dit quelque chose de la personne, et là, il n'est nul besoin d'être praticien pour voir effectivement dans le métro parisien... qui est une ville déjà très impersonnelle, mais alors là, ça devient terrible. On cherche, le regard cherche à quoi s'accrocher. Oui, il n'y a plus que des murs, des néons et puis des hommes masqués.
Et puis, nous avons l'habitude, au fond, d'appréhender l'autre à partir de la globalité de son visage. Hein. Les enfants apprennent ça. Combien de sociologues ont depuis un an commencé à s'interroger en se disant... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un enfant de voir sa maîtresse ou son maître en permanence masqué, hein, il y a quelque chose qui va lui manquer. Et comme il y a des apprentissages qui s'acquièrent à un certain âge et qui ensuite risquent de se perdre s'ils ne sont pas acquis, c'est tout à fait problématique. Et puis, il y a aussi cette fonction particulière. Moi, je dis souvent, et ça m'est arrivé souvent, par exemple, quand on regarde dans un lieu de travail certaines vidéos, de pouvoir dire « Regardez cette personnage, cette personne-là, là. Elle sourit avec la bouche, mais elle ne sourit pas avec les yeux. » Hein, voilà. Alors, vous allez me dire, là, la bouche est cachée. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, on a besoin de la globalité du visage pour pouvoir appréhender l'autre dans sa globalité.
Mais, enfin, si on s'en rend compte, on aurait pu se dire, oui, bah, on voit les yeux, donc on comprend tout. Et en fait, non, on voit bien que c'est totalement, totalement différent, effectivement.
Oui. Il y a une finesse dans les yeux, bien évidemment. Il y a quelque chose d'extrêmement précis qui se dit, de la joie, de l'entendement, de la lassitude. Mais de temps en temps, il y a une neutralité des yeux voilà, qui est là. Et c'est les petites choses, une toute petite moue du visage qui fait. Alors, de temps en temps, bon. Et puis, on sait bien qu'il y a des gens qui parlent beaucoup avec leurs yeux, où leurs sourcils sont en permanence levés, baissés, écartés, voilà. Plein de choses. Enfin, les paupières s'écartent ou se referment. Et puis, il y en a d'autres qui parlent beaucoup, beaucoup avec la bouche. Hein. Voilà, la petite mimique. Voilà, on tord. Il y a un petit coin qui part d'un côté ou de l'autre. Presque, on montre les dents. Voilà. Et puis, il y a des tas de choses qui sont les gens qui vont passer leur langue sur leurs lèvres et on se dit, tiens, ils ont la bouche sèche. Et pourquoi ils ont la bouche sèche? Parce que leur système sympathique est à fond la caisse, on pourrait dire. Donc, il y a de l'adrénaline qui y a derrière. Et on n'est pas obligé de savoir tout ça, mais ça se sent, voilà, on le ressent. Bien sûr. Quelque chose d'un petit peu difficile. Voilà. Et ça, maintenant, on le voit plus, donc c'est tout à fait difficile.
C'est également l'unicité de chaque individu qui est cachée, niée quelque part.
Oui, je crois que le visage est toujours porteur de cette globalité, de cette identité, de cette vérité. On reconnaît. Imaginez par exemple que j'essaye de vous décrire, un homme célèbre. Hein, je vais essayer de le décrire en donnant des tas d'éléments, même de son visage. Il y a des chances que vous ne trouviez pas. Alors que si je vous montre la photo visuelle, vous allez le reconnaître tout de suite. Et il suffit de 50 millisecondes pour que ça suffise. Donc je crois que le visage dit quelque chose de l'identité. Et puis, il faut rappeler aussi, alors ça, Lévinas l'a beaucoup développé, que le visage, c'est toujours ce qui est toujours nu. le visage est nu par définition, c'est-à-dire notre nudité s'affiche toujours dans le visage. Voilà, alors je ne parle pas quand il fait très froid ou quand on met un casque de moto, mais autrement, c'est la partie du visage qu'on ne couvre pas. C'est d'ailleurs pour ça que dans les sociétés occidentales, le fait de cacher son visage, je fais référence ici aux traditions d'un certain islam, par exemple, ont pu être perçu comme quelque chose qui était agressant pour l'entourage. Mon propos, ce n'est pas de se dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais de dire que là, cette dissimulation, c'est comme si c'était une dissimulation totale, voilà, et qu'on n'était pas dans cette relation, dans cette franchise de la relation. Et puis, le visage, il a aussi sa couleur, il est ouvert ou il est fermé, il est blanc, il est rouge, il est vert, il est bleu, voilà, suivant qu'on a peur, suivant qu'on a... Voilà, on peut avoir une bouffée de chaleur dans le visage. Donc, il y a des tas de choses. Et on n'a jamais besoin de comprendre ce que ça signifie sur le plan intellectuel ou sur le plan formel. Chacun le ressent. Voilà, donc ce visage en tant que singularité, en tant que unicité, en tant qu'absolu de l'autre, vient me dire aussi que je suis bien en face de... Voilà, aujourd'hui, je sais que je suis devant Simon et que je parle avec Simon parce que je connais le visage de Simon. Et que dans cette globalité, j'espère avoir accès à la globalité de ce que Simon a envie de m'exprimer. Voilà. Et s'il hoche la tête, et s'il plisse les yeux, et si voilà, il fait un petit peu la grimace, je vais essayer de ressentir et de percevoir ça. Voilà. Donc, le visage, c'est au fond l'expression, le chiffrage, on pourrait dire presque rayonnant de notre psychisme, de notre âme. Et ça exprime le plus souvent la totalité, en particulier de nos émotions, de nos sentiments, de la peur jusqu'à la joie, en passant par la tristesse. Et je repensais à cette patiente de ce matin. Ce qui m'a énormément frappé à partir du moment où elle a enlevé son visage...
Son masque ?
Où elle a enlevé son masque, voilà, tout à fait, exactement. C'était la tristesse de son visage. Voilà. Et juste avec ses yeux, je ne voyais pas. Sa tristesse était portée par sa bouche, vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, la conversation a changé, parce que j'ai ressenti ça. Et au fond, je lui ai dit peu de temps après, mais en fait, vous êtes triste. Voilà. Et elle m'a dit, oui, c'est ça. La question, c'était sa tristesse. Voilà. Et elle n'était pas dépressive, comme elle l'a dit, mais elle était triste compte tenu de son histoire et de ses douleurs.
Alors, on voit bien que cette pandémie a posé de graves soucis aux négociateurs. Je pense justement aux négociations qu'il y a eu pour le Brexit. Elles ont été très difficiles pendant cette période. Et j'ai pu entendre au niveau européen des gens dire, mais comment voulez-vous qu'on négocie à distance à travers un écran? Ouais. Et là, je pense, on va reprendre parler du masque, évidemment, mais ouais. Le visage, la présence, c'est aussi une histoire de confiance.
Oui, sûrement ce mot fondamental ici, c'est la question de la confiance, c'est-à-dire nous avons besoin du visage pour avoir confiance en l'autre, comme pour donner confiance. Voilà. Mais regarde-moi, on peut dire à l'autre. Et de temps en temps, on peut même dire, mais écoute, si tu as du mal à croire mes paroles, regarde-moi. Tu vas voir dans mon visage que je te dis la véracité et en tout cas la vérité de notre relation. D'ailleurs, le masque, est-ce qu'il n'est pas en même temps le symbole et la métaphore du travestissement, du paraître, de l'illusion, en tout cas dans le petit sens du mot masque, voilà. Et d'ailleurs, je pense que on risque toujours d'ouvrir la porte à l'insulte, à l'opprobre, à la violence, puisque au fond, le masque, il enlève potentiellement à celui qu'il porte la responsabilité dans un sens de ses actes, puisque il avance masqué. D'ailleurs, l'anonymat du visage masqué dit bien que l'autre se dissimule, donc n'est pas dans une relation. Voilà. On sait bien d'ailleurs que pour le mouvement international des Anonymous, voilà, ils ont un masque, hein, un masque qui dit qu'ils avancent de façon cachée.
Donc, on peut imaginer aussi que les gestes barrières ont eu ce même effet négatif sur la confiance, le fait de serrer une poignée de main, ça dit
bien
énormément de
sûr,
choses
bien sûr.
à l'ouverture d'un pourparler ou pour le conclure.
Bien sûr, oui, tout à fait, c'est très très important. Et puis, même dans tous ces gestes de proximité, de je te prends dans les bras, la petite bise, c'est pas la même chose que de se serrer très fort. Et puis, de temps en temps, on a envie de dire quelque chose à l'autre, et au lieu de se serrer dans les mains pendant une demi-seconde, on va le serrer pendant 5 secondes, et ça dit quelque chose de ça. Donc, je crois que, en effet, dans la nudité du visage dont Lévinas a beaucoup parlé, il y a quelque chose de la véracité. Et le voleur, finalement, il est toujours dissimulé. Donc, je ne suis responsable de ma parole que si j'avance à visage découvert. J'ai besoin d'être face à l'autre, donc dans un face-à-face, découvert.
Finalement, le masque nous aura probablement rendus plus solitaires que nous l'étions avant dans cette société qui est déjà, comme nous l'avons dit, clivante, individualiste.
Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure à propos des barrières, en effet, le masque, c'est une barrière. On le sent bien dans sa dimension hygiénique, bien évidemment, puisqu'il s'agit que je garde mes microbes et que je ne les passe pas à l'autre, et que les microbes de l'autre ne viennent pas dans ma bouche, au fond. Mais que derrière, il renvoie tout à fait autre chose, et en particulier à cette possibilité d'une plus grande solitude. Et je rappelle ici que la solitude n'est pas négative en soi. La solitude choisie est heureuse, mais la solitude subie peut être le plus souvent,
Cancer.
enfin peut être potentiellement en tout cas délétère. Alors il faut probablement porter des masques pour survivre, mais est-ce qu'au bout d'un certain temps, est-ce qu'on risque pas, nous tous, que ce soit les masques qui au fond nous portent, c'est-à-dire résument notre identité. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre à tout se dire par les yeux. Est-ce que demain ou après-demain, nous allons tous vivre dans une sorte d'océan de masques, c'est-à-dire être tous masqués? On sent que là, il y a quelque chose qui serait tout à fait terrifiant.
Docteur Dominique Desmichel, un grand merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Simon, au revoir.